On va commencer avec vous, Rita, parce que, alors vous, vous avez quand même un privilège ici, c'est que vous, vous l'avez utilisé, la version 2017. Fait partie des, vous êtes la première utilisatrice, donc expliquez-nous un petit peu comment et comment est-ce qu'il vous aide effectivement ce MOS à l'élaboration du SCOT, du schéma de cohérence territoriale dans votre communauté d'agglomération de Roissy Pays de France.
Bonjour. Donc effectivement, nous avons été confrontés à l'utilisation très rapide à la première du MOS, puisque l'IAU, c'est notre maître d'œuvre avec Algoé pour l'élaboration du SCOT. Alors, les SCOT pour Roissy Pays de France, c'est une aventure qui a commencé récemment et qu'on doit mener à tambour battant. En fait, nous sommes issus d'une fusion extension au 1er janvier 2016. Et à partir de là, les élus ont souhaité s'engager très rapidement dans cette aventure d'avoir un projet des territoires communs autour duquel commencer à bâtir, renforcer et s'appuyer sur ce projet pour mettre en œuvre des politiques urbaines, des politiques publiques pour les territoires. Une partie des élus sur la partie valdoise, ils sortaient d'une expérience quand même pas très heureuse d'un SCOT qui a été annulé par la dissolution du syndicat qui le portait, les CIEVO. Et du coup, déjà avant la fusion, au cours des années 2014-2015, quand cette fusion allait se profiler à l'horizon, on a commencé à regarder quels étaient ces territoires. Effectivement, on a utilisé les MOS. Au travers du MOS, on a commencé à regarder où on mettait les pieds. On a préparé ça pour les élus. On s'est aperçu qu'il y avait des différences territoriales. Bon, vous me direz, il suffit de regarder la carte. Mais avec les MOS, on a des chiffres avec des densités qui allaient des 5000 habitants à 700, avec des territoires où l'espace agricole, naturel et forestier est extrêmement présent, et des communes dans lesquelles il y avait pratiquement plus grand chose. Donc ça, ça a été une utilisation du MOS qu'on avait déjà fait, et on avait cet exercice avait été vraiment important aussi pour les élus pour pouvoir orienter leur politique et leurs choix qui en ont découlé après. Effectivement, on a eu, compte tenu de nos maîtres d'œuvre et du fait que les élus nous ont donné une commande très rapide, on a le périmètre du SCOT, la délibération du périmètre du SCOT a été prise par la communauté en octobre 2016, et les élus souhaiteraient vraiment approuver les SCOT dans cette mandature. C'est une commande très volontariste et on essaye avec nos maîtres d'œuvre de l'amener. Donc, les MOS, on l'utilise à tous les stades d'élaboration du SCOT. Dans les diagnostics, c'est une évidence. Une partie du MOS, c'est ce qui nous disait Laurie et Muriel, c'est de l'observation. Donc, on a un instant T, un territoire dans lequel on voit de quoi il est composé. Et on s'est aperçu que, malgré tout, on a un espace dans lequel l'espace agricole représente 51% du territoire, ce qui est important. On a 10% d'espaces ouverts, 7% des forêts, et on a aussi la donnée importante. L'aéroport, il n'est pas que sur notre territoire, il est aussi en Seine-Saint-Denis, mais sur notre territoire, les transports représentent 8% de la surface de la communauté, ce qui est énorme. Mais c'est bien entendu dû à l'aéroport. Donc, on a observé au travers des données statistiques du MOS énormément d'éléments qui nous ont servi pour les diagnostics sur l'activité économique, la présence des zones d'activité, les questions sur la logistique et les commerces. Donc dans les cadres de ce portrait, vous avez là sur ces deux panneaux, d'une part, un territoire dans lequel on voit les dominantes commune par commune, et la dominante agricole, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 51%, elle est bien exprimée au travers de ces éléments des statistiques. Et après, l'exercice sur l'habitat et sur les espaces économiques, on voit bien qu'on peut évaluer et se rendre compte de l'importance de certains secteurs par rapport à d'autres. On voit par exemple que l'habitat individuel, c'est ce qui est en jaune sur ce premier graphique, c'est une donnée extrêmement présente et sur les territoires, malgré le fait qu'on soit sur des territoires aussi qui au sud sont très denses, très proches de la métropole. Donc, on a, et d'autre part, on a aussi l'observation des évolutions. Et l'observation des évolutions, c'est aussi qui est appelé Laurie, c'est que sur le recul qu'on peut avoir avec autant d'années d'observation, on se rend compte que les choses sont changées. On a vraiment l'avis du territoire au travers les grands projets, et c'est pour ça que entre 1982 et 2003, la consommation des espaces agricoles et des milieux semi-naturels a été énorme sur le territoire. Et c'était les années dans lesquelles l'aéroport s'est constitué. Sur les années 2003-2012, comme on disait tout à l'heure, la consommation des espaces agricoles et des espaces naturels s'est infléchie, mais on était encore dans des périodes dans lesquelles on avait des constructions importantes en habitat, en activité et encore en transport. Et à partir de 2012 jusqu'à 2017, on s'aperçoit qu'on est passé d'une moyenne de consommation d'espace agricole de 120 hectares en moyenne par an à 50 hectares en moyenne par an. Donc c'est les constats qui se passent sur toute l'île de France, il est particulièrement vrai en Val d'Oise et sur notre territoire, on les constate aussi malgré la présence de l'aéroport et malgré le fait que dans les SCOT, les projets des territoires tourne autour aussi de cet outil énorme pour la région, mais aussi pour la France, qui est l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, et pour lequel nos élus souhaitent accompagner ces développements par la mise aussi en exergue et en valeur de tous les développements économiques qui lui est propre, mais aussi des communes autour, comment les communes autour peuvent en bénéficier, peuvent en profiter et peuvent poursuivre leur développement. Donc, une fois qu'on est dans l'observation et dans l'observation des évolutions, on a utilisé aussi ces éléments pour construire ce qui était notre projet au travers de l'observation des polarités. Alors, là, on a pour les diagnostics, on a utilisé la méthode de l'IAU, qui était liée au fait de partir des polarités d'équipement qui sont propres à l'IAU et sur lesquelles il travaille, et les croiser avec la densité humaine, les MOS, donc l'espace urbanisé du MOS et la consommation des sols. Des questions liées à l'accessibilité des territoires et donc ce maillage de polarité et d'équipement. Et vous voyez la carte qui est sur ce premier panneau dans lequel on a des polarités qui émergent où ce qui est plus foncé, bien entendu, sont les fortes densités et fortes centralités. Donc on est bien sûr dans la partie sud des proches de la métropole où les longs des voies des chemins de fer, les RERD ou pour partie la ligne K, et après des faibles densités qui sont autour des centralités qui étaient nos anciens centres-bourgs qui se développent. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle de ça, on a aussi été accompagné très fortement par les conseils départementaux du Val d'Oise, donc Valérie Fresneda, elle est avec nous pour renforcer cette analyse avec une analyse faite de manière un peu différente, hein, c'est une analyse factorielle, pour voir si, à partir d'autres éléments, on arrivait à des conclusions comparables. Et effectivement, ils nous ont accompagnés sur ces travaux très importants qui est versé aussi au diagnostic et qui nous a servi à fabriquer le PADD et qu'on va continuer à utiliser dans les dos. Et donc, c'est une analyse factorielle à partir d'un nombre de 26 variables qui couvrent des niveaux différents des données socio-économiques, population, emploi, logement, équipement et services, et puis des niveaux de connexion au réseau de transport avec là une étude assez fine. Des présences des gares, des habitats à moins d'une certaine distance, 900 mètres des gares, fréquentation de transport en commun, ainsi de suite. Et on est arrivé à des conclusions comparables, c'est-à-dire qu'on a ce front métropolitain qui se caractérise de manière un peu différente pour ceux qui sont qui est l'ouest de la communauté d'Aglo, avec des communes qui sont en déficit d'image du territoire. Ce sont les communes denses dans lesquelles on a des opérations de renouvellement urbain très fortes, des communes denses à l'est de la communauté, mais qui sont aussi dans une recherche d'affirmation et de leur image d'accueil et d'habitat. Les pôles urbains, alors on a des pôles qui ne sont pas identifiés comme des pôles à renforcer dans les SDRIF, qui sont Goussainville et Métrimonie, qui ne sont plus du tout dans la continuité urbaine, mais qui émergent aussi dans cette carte, on les voit bien, et ce sont des sortes de rotules, des pôles d'équilibre. Et après, on a les quatre pôles du SDRIF. Fosse, Saint-Vitz, Marie-la-Ville, Survilliers, Louvre-Pizeux, Dammartin, Angoël et Clé-Souilly. Donc, dans notre travail, effectivement, on s'est appuyé énormément sur ces dispositifs qui, au même temps, nous accompagne les élus dans leur choix, mais est aussi un incontournable. Vous savez bien que dans les SCOT, il faut faire un état très précis de la consommation de l'espace, et il faut prévoir combien d'espace va-t-on consommer. Et donc, c'est grâce à ces travaux et à cet appui important qu'on a pu aller aussi plus vite dans notre élaboration.
Et alors les élus, donc si je comprends bien, aujourd'hui les élus ont en main ces documents, se les approprient facilement. Est-ce qu'il y a des formes qui marchent mieux que d'autres, entre guillemets, entre des formes cartographiques, des formes graphiques, comment trouver la bonne, parce que ça reste un outil. J'ai envie de dire, ça reste un outil technique, une base de données. C'est pas forcément très simple d'expliquer tout ça, d'en faire un produit qui va permettre vraiment, comme vous le dites, de discuter avec les élus, d'engager, et d'élaborer une vraie stratégie, une vraie politique.
Je dirais qu'après, c'est à nous, techniciens, de vulgariser avec les élus ces questions-là, et pas seulement avec les élus. On a préparé quelques publications vers les habitants. Ce sont des publications qui sont très techniques, et c'est vrai qu'on a des retours parfois un peu glaçants. Il faut qu'on regarde certainement autrement notre communication, parce que c'est vrai qu'ici, on parle entre guillemets initiés. Les élus s'approprie facilement ces documents, mais il faut vraiment, on a toujours besoin d'être interprète et d'expliquer que parfois, quand on c'est difficile pour un élu à entendre dire que il a consommé plus d'espace auquel il avait droit. Donc on essaye de trouver les bonnes curseurs pour que ça soit entendable et qu'il soit aussi relativisé. Il y a pas de au moment aussi de l'élaboration du SDRIF, ce qui a été dit par rapport à la consommation de l'espace. S'il y avait des opérations qui étaient suffisamment avancées, comme des A qui étaient déjà approuvées, certes, elles pouvaient consommer, entre guillemets, plus d'espace de ce qui était envisagé dans les SDRIF, mais que ce qui était les coûts partis, il y avait une indulgence par rapport à ça. Parce que c'est vrai que la consommation de l'espace, on la regarde par rapport au MOS, mais c'est les SDRIF, notre maître mot. Et c'est toujours dans cette confrontation-là qu'il faut qu'on soit,
Mais donc, au bon endroit. Du coup, l'intérêt du MOS, c'est aussi de partager le même outil.
Absolument.
Tous ensemble. C'est-à-dire que vous soyez, communauté d'agglomération, le département, la région, les services de l'État, le fait que vous partagiez le même outil, justement par rapport à une situation que vous avez dit au début, on savait pas où on mettait les pieds, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est que le contexte était politiquement un peu tendu. Le fait de s'appuyer sur une base de connaissances commune, ça a été quelque chose d'apaisant et qui a permis d'avancer.
Sur la question de la consommation de l'espace, on se connaît, il y a plusieurs personnes avec lesquelles on travaille au quotidien.
Je vois qu'il y a des sourires dans la salle, deux ans.
Apaisé, c'est...
J'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, c'est ça?
En fait, la difficulté, c'est que même quand on a des données très précises et cartésiennes, on arrive toujours à se poser des questions sur l'interprétation des données cartésiennes. Voilà. Ouais. Mais sans ça, ça aurait été un judo encore beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Là, on a effectivement des données quantifiées qui nous permettent d'avoir un langage commun.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, la première utilisatrice de cette nouvelle édition. Non? Personne? Si? Voilà.
Oui, sachant que l'expérience du CIEVO, ça a été une expérience très importante.
Alors, excusez-moi, parce que alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'expérience du CIEVO. D'accord. En fait, c'est ce dont vous parliez au début.
Oui, c'était les syndicats qui regroupaient la partie valdoisienne des communes, donc 42-17, 25 communes, et qui avaient élaboré des schémas au cours des années, fin des années 90, un premier SCOT en 2006, avec une révision qui n'a pas abouti. Et qui a finalement abouti à la dissolution du syndicat. Et aujourd'hui, notre effort, c'est vraiment d'avoir tourné la page et de dire que les CIEVO, c'était une époque, c'était une étape. Aujourd'hui, on est vraiment sur autre chose parce que le territoire a radicalement changé et ça nous permet aussi ça permet aux élus de faire, entre guillemets, un deuil un passage qui n'a pas été très productif, glorieux, et donc se lancer sur un dispositif nouveau avec des communes très différentes et un projet de territoire à monter. Les SCOT, donc, c'est vraiment le support du projet de territoire, au-delà de l'outil des planifications telles qu'on les connaît.
D'autres remarques, d'autres questions, même si vous êtes loin? Non. Alors moi j'en ai une, c'est la question de l'échelle d'analyse, parce que donc on a parlé de la capacité à faire un diagnostic, à évaluer l'évolution du territoire à ces grosses mailles, si je peux dire, surtout quand on regarde cette carte, ce qui est important dans le cadre du SCOT. Mais vous me disiez aussi quand on s'est appelé dans le cadre de la préparation de cette table ronde que on arrivait à l'échelle même du, par exemple, du territoire de l'aéroport, à mener des analyses plus détaillées qui sont importantes.
Oui. Effectivement, malgré les 91 couches, après, on s'aperçoit... aujourd'hui, nous, on est assez focalisé sur le travail de la charte agricole, de la trame verte et bleue, donc la caractérisation des espaces naturels et des espaces agricoles et des espaces forestiers va nécessiter d'un travail plus approfondi. Donc, il faudra qu'on regarde comment... compléter la question, tout ce qui émerge de l'interprétation d'une orthophoto et voir quels autres éléments il nous serait utile et comment les faire évoluer pour avoir une vision plus précise. J'ai regardé en préparant justement cette table ronde l'évolution aussi, c'est que les dernières cartes avec l'évolution entre les MOS de 82 à aujourd'hui, et on voit des évolutions sur lesquelles j'aimerais bien revenir avec les collègues de l'IAU pour comprendre d'où et pourquoi un espace qui était un espace naturel est devenu un espace agricole, sachant qu'il n'est pas vraiment agricole en usage. Donc il y a plein de questions qu'il faudra qu'on se pose ensemble pour voir de quoi on a besoin, nous, les pourquoi de certaines évolutions, de quoi nous on a besoin et quelles autres investigations on doit faire pour aller plus loin là où on a des questions qui émergent fortement. Sur la question, par exemple, de l'habitat, ça c'est intéressant, c'est que Muriel disait tout à l'heure que quand on parle d'évolution de la ville sur la ville, on regarde on a un changement de destination. Mais du coup, je me demandais, le renouvellement urbain, quoi qu'il en soit, il opère soit de la densification, soit de la construction neuve sur des quartiers qui évoluent, mais on change pas de destination. Donc comment on les voit dans les MOS, est-ce qu'on les voit, quel pourrait être l'intérêt de comprendre comment le renouvellement urbain incide sur l'utilisation des sols.
Donc le MOS, machine à questions, en fait.
Oui.
Oui. Si je comprends bien, c'est aussi.
Mais c'est l'intérêt.
C'est aussi, l'intérêt. Voilà, c'est aussi la possibilité de se poser des questions, de voir des choses totalement contre-intuitives aussi, de découvrir des choses sur le territoire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par contre-intuitive?
Qui vous surprennent beaucoup, c'est-à-dire justement quand vous remontez un peu dans le temps.
Oui. Après, il y a aussi tout ce qui est statistique. Les statistiques, ouais. Parfois, elles sont dans un rapport à l'intérieur d'un cercle. Donc, parfois, les pourcentages, on en parlait tout à l'heure avec Muriel, sur des statistiques, elles peuvent être surprenantes parce que quand on parle d'une statistique, vous voyez les surfaces et vous voyez les densités. Quand on applique les mêmes statistiques à des surfaces et des densités qui sont différentes, on peut dire des choses incompréhensibles. Et du coup, c'est l'interprétation qui est liée à la connaissance du territoire qui fait qu'on peut en faire un bon usage. Voilà. D'accord. Et donc, effectivement, on peut être surpris parfois.
D'accord. Pas de remarques? On change d'échelle? Si? Il y a une main. Pardon, ben, j'avais pas vu.
Bonjour, Florent Vaudois de l'agglomération Valparaisis. Donc, je m'occupe de l'observatoire territorial, donc de la communauté d'agglomération. Et effectivement, donc je pense que vous l'avez bien noté, le MOS il est très intéressant quand on étudie notamment les changements de poste qui permettent d'étudier le renouvellement urbain. Et on a, je pense qu'il prend, c'est une base de données qui prend vraiment toute sa dimension, comme ça a été rappelé tout au début, quand elle est croisée avec d'autres données. On a notamment les données de l'INSEE qui sont assez intéressantes à ce niveau-là, mais c'est aussi et surtout pour moi les fichiers du cadastre, les fichiers fonciers, donc qui permettent, en travaillant notamment sur l'année de construction des locaux et la typologie des locaux, qui permettent vraiment d'analyser des phénomènes que le MOS ne détecte pas forcément, notamment donc j'ai mené une étude sur le territoire de Valparaiso, sur toute la densification donc en fond de parcelle, donc à partir des données donc du fichier du cadastre, qui permettent vraiment d'identifier donc tout ce mitage donc de l'habitat individuel sur des espaces qui apparaissent déjà urbanisés. Donc voilà, ma remarque, c'est juste à ce niveau-là, vraiment de préciser que pour moi, enfin dans la façon dont je l'utilise, c'est vraiment une donnée qui prend toute sa mesure quand elle est croisée, notamment avec le cadastre.
Merci pour cette remarque. Je pense qu'on reviendra sur cette notion de foncier avec l'intervention de Mathieu Écoiffier. Mais pour l'instant, je vais passer la parole à Olivier Denner.